Philippe Dardier, bonjour.
Bonjour Didier.
Vous êtes executive directeur et trésorier de l'European Crowdfunding Network, réseau donc de plateformes de crowdfunding. On en est où justement en Europe? On en a beaucoup parlé, on en a presque tous les jours en France de nouvelles qui s'installent. Le mouvement s'est vraiment installé aujourd'hui en Europe?
Oui, il y a une véritable amplification du mouvement à tous azimuts, hein, avec une professionnalisme des plateformes, des différents métiers. Pour mémoire, il y a à peu près quatre métiers. Il y a ce qu'on appelle donation base, grant base, donc c'est le don et tout ce qui est don direct, don contre contrepartie. Et il y a le lending, donc le prêt, hein, qui est très très documenté aux US notamment. Et finalement, il y a l'equity, donc l'investissement en direct. Et donc depuis 2 ans, depuis l'émergence, on va dire, du secteur, hein, on a vraiment senti une vague de fonds qui se crée. Certains pays ont créé des statuts. Certains ne l'ont pas créé, la France notamment a été un peu précurseur là-dessus, avec toutes les vicissitudes qu'on a dans un premier jet de texte de loi. Aujourd'hui, on sent une véritable professionnalisation du métier, une financiarisation, notamment dans les métiers du lending et le métier de l'investissement equity.
Oui, parce que derrière, effectivement, la partie, c'est de l'épargne qui va s'investir sur ces plateformes, donc les régulateurs, les gouvernements, effectivement, regardent ça de près. Comme vous disiez, la France est plutôt en avance, mais est-ce que ce qu'elle a fait répond aujourd'hui justement à ce besoin-là?
Alors, il y a deux écoles, hein. L'école qui dit ça a été mal fait et l'école qui dit ils étaient les premiers à se lancer, donc il y a forcément on paye les pots cassés, c'est pas parfait et tout ça. Bon, moi je serais plutôt partisan de la deuxième école, sachant qu'il y a des choses qui auraient pu être évitées et qui ne l'ont pas été. En France, on a une particularité qui est un véritable frein, c'est les SAS. Pourquoi? Parce que quand on crowdfunding equity, on sollicite l'épargne des investisseurs, on a besoin d'investir dans une société qui est garante d'informations, etc. Aujourd'hui, on est dans un monde européen, quand on parle de l'investissement en equity, et la SAS n'existe qu'en France. Donc un investisseur français ou étranger qui va investir dans une SAS, c'est compliqué, plus le code du commerce n'est pas parfait pour les SAS, c'est régi par des statuts, alors que le SA, tout est bien cadré.
Donc là, il y a, on va dire, une harmonisation aussi peut-être européenne à trouver, aider en tout cas à mettre des passerelles.
Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a de plus en plus, nous, par exemple, dans la vie réelle, moi je suis dans une plateforme qui est la première plateforme Equity. Nous sommes prestataires de services d'investissement. On a été passeporté dans d'autres pays. Donc nous, on a déjà l'agrément européen et on a déjà une société irlandaise de côté. Donc on sent qu'on est au début d'un mouvement. Dans les pays nordiques, les plateformes demandent des agréments dès aujourd'hui de PSE. Pour justement avoir ce passeport européen.
Alors on sait que ce mode de financement était très répandu aux États-Unis, hein, c'était même principalement là. En France, en France et en Europe, c'est d'abord les banques qui faisaient ce travail-là. Là, on a vraiment potentiellement un devenir qui pourrait être équivalent à ce qui se fait aux États-Unis. Ça va prendre plusieurs années.
Oui, de toute façon, ça prendra des années et la démarche sera européenne parce qu'on ne peut pas comparer la France aux US. En réalité, la France est plus comparable à la Californie ou une petite Californie. Donc on ne peut pas se comparer au marché intégré et dynamique des US. Donc à mon avis, pour les investisseurs, il faut vraiment une nouvelle étape à franchir, c'est de regarder les projets d'autres pays, ce qui suppose une uniformisation de l'information, des prestations, des plateformes connues, sécures et réglementées.
Oui, quelque part, pour qu'un investisseur français, il fasse aussi lui aussi sa propre diversification.
Exactement.
De risque et qu'il puisse acheter une société hollandaise ou d'autres sociétés européennes finalement.
Alors je tiens à préciser, là c'est le crowdfunding equity dont moi je parle. Aux US, il n'y a pas encore de crowdfunding equity, il y a du prêt. On a vu avec Renault Laplanche et sa magnifique IPO, le succès que ça a connu, et qui est même plus du tout dans le crowdfunding, c'est du peer-to-peer lending, donc les professionnels qui prêtent. Par contre, aux États-Unis, le don et on va dire l'award et le don avec Indiegogo et Kickstarter marchent extrêmement bien, et on sent que les Américains vont rentrer progressivement dans l'aspect, on va dire, investissement.
Vous parliez de votre plateforme Alternativa. On a les plateformes qu'on connaît, les marchés réglementés, des plateformes qui sont mises en place. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, il y a une barrière à l'entrée? Quelle est la barrière à l'entrée? Parce qu'on a l'impression, moi je peux dire que j'en reçois tous les jours des nouvelles plateformes qui s'installent.
Oui, alors il faut différencier entre le crowdfunder et l'agrément de crowdfunder national. En réalité, il y a plusieurs types d'agréments pour faire ce métier, il y a plusieurs styles d'agréments. Aujourd'hui, l'aspect réglementaire va être de plus en plus lourd. pas se faire d'illusions, mais il va rester plus souple que ce qu'il n'a été. Le crowdfunding a eu le mérite de, on va dire, de vulgariser certains aspects de la réglementation, mais c'est un travail constant de protection d'investisseurs et de protection d'émetteurs qui doit rester le cœur du métier des plateformes. Et donc, sur les marchés, aujourd'hui, les marchés boursiers qui sont, on va dire, l'étape suivante pour notamment les crowdfunders equity ou ceux qui font du prêt, restent et demeurent, pour moi, la passerelle à créer entre ces deux-là pour que tout marche. Et comme on l'a vu aujourd'hui chez Parioplace, le junior market, nous sommes un junior market, alternativement, nous avons deux métiers, un crowdfunder et un junior market, un opérateur de la Bourse de Lyon, sont, à mon avis, l'avenir du financement equity. Par le gros problème aujourd'hui du crowdfunding equity, et c'est normal à ce stade, c'est les sorties. Comment est-ce qu'on réalise son gain, pas qu'on ait mis 10 000 euros et on soit coincé 10 ans plus tard avec ces 10 000 euros illiquides, on va dire.
Justement, de ce point de vue-là, on se dit, avec toutes ces plateformes, il ne peut pas y avoir autant de dossiers terribles, extraordinaires, qui vont arriver comme ça sur le marché, qui étaient cachés, qui arrivent aujourd'hui. Il y aura forcément des déchets là-dedans.
Oui, alors, les dossiers, est-ce qu'il y en a beaucoup? Oui, il y en a énormément. Et en réalité, il y en a plus que de plateformes. Mais les bons dossiers, entre guillemets bons, tout le monde chasse un peu le même style de dossier. Il y a beaucoup, une grosse appétence pour l'innovation technologique, mais il y a aussi de l'appétence pour d'autres sujets, type, des vignobles, des choses très, très compréhensibles, le luxe très compréhensible par l'investisseur.
En même temps, on voit aussi ces appels sur des taux de rendement, des rendements. On a l'impression qu'on oublie ce facteur risque qu'on a toujours, que tout investisseur doit avoir en tête. Il n'y a pas de rendement sans risque.
Oui, alors sur l'equity, il n'y a pas une promesse de rendement que je connais. Il y a un rendement sur les taux. Dès que vous avez des taux qui sont au-dessus de 3-4%, il y a un risque de défaut qui varie selon la plateforme, selon la contrepartie, selon le risque. Il se peut très bien qu'une plateforme qui a un projet qui emprunte à 2% fasse défaut, mais une plateforme qui emprunte à 12 ne fasse pas défaut. Donc il y a beaucoup d'aléas, mais ça a le mérite de vraiment simplifier et fluidifier le marché.
En conclusion, aujourd'hui, alors il y avait un vrai sujet PME, ETI, sur avoir effectivement de nouvelles sources de financement. Donc là, c'est des montants importants, mais on voit qu'on va jusqu'à la TPE. C'est-à-dire que là, on va vraiment trouver des financements pour ces entreprises-là alternatifs aujourd'hui.
Je pense qu'on commence. On est au début d'un cycle long. Ce que tu évoquais tout à l'heure, donc une recherche de financement à la base. Il y a beaucoup d'outils pour les start-up. L'innovation, il y a un problème de sémantique. D'ailleurs, start-up n'a pas de chiffre d'affaires théoriquement. Les PME, TPE ont un petit chiffre d'affaires et commencent à grossir. Il y a un problème de fonds, c'est le financement des fonds propres, parce que les sociétés d'Europe continentale sont sous-capitalisées, donc il n'y a pas assez de fonds propres. Elles empruntent, mais l'emprunt ne résout pas tous les problèmes. Donc pour revenir à ce que tu dis, oui, ça va étoffer, donner une offre plus large, parce que personne n'a vocation à être l'unique solution pour tout, quoi.
Voilà, en tout cas, un nouvel univers qui est en train de nettement se développer. Merci, voilà. Philippe Dardet, d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup, Didier.